Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Le Cercle du Libre Examen de l'ULB fête cette année ses 85 ans, un cercle emblématique de cette université qui a fait du Libre Examen le socle de son enseignement. Un principe fondamental adopté en 1909 en s'inspirant de cette citation du mathématicien et philosophe français Henri Poincaré. La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. Mais comment ce principe a-t-il été transmis de génération en génération d'étudiants à l'ULB? Quels ont été les grands combats du cercle du Librex, comme on l'appelle? Et comment ce cercle a-t-il évolué avec le temps? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos invités, tous trois actuels ou anciens présidents, présidentes du cercle du Librex, que je vous présente immédiatement dans l'ordre chronologique. Josie Dubier, tout d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été président du Cercle du Libre Examen de 1970 à 71. Vous avez ensuite fait une longue carrière comme journaliste à la RTBF, avant de faire un petit détour par le PNUD et de vous lancer ensuite en politique sur la liste Écolo, un parti pour lequel vous avez notamment exercé les mandats de sénateur et de député bruxellois. Nous recevons également Christine Rigart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été la présidente du Cercle du Libre Examen de 1982 à 83 et vous êtes avocate. Et enfin, Hamza Belakbir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, l'actuel président du Cercle du Libre Examen pour le mandat 2014-2015 et vous êtes étudiant à Solvay. Vous êtes arrivé en Belgique en 2010 en provenance du Maroc, ce qui fait de vous le premier président du Librex à ne pas avoir la nationalité belge, détail ou pas. À vous de nous le dire dans quelques instants. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Josie Dubier, commençons peut-être par vous. Le grand public vous connaît surtout pour vos activités journalistiques ou éventuellement politiques, mais nous ne sommes pas tous toujours très nombreux à savoir que vous avez été président du Cercle du Librex, qui plus est à une époque de grands changements à l'ULB, puisque c'était au lendemain de 1968. Alors, pour nous aider à nous replonger dans cette époque, pouvez-vous peut-être tout d'abord nous dire ce qui a motivé le jeune étudiant Josie Dubier à s'engager au Cercle du Libre Examen?
Pour moi, ça m'a paru quelque chose d'assez évident. Si j'ai pas choisi de faire mes études à l'ULB par hasard, c'était clair que je participais déjà à l'idée du libre examen qui me semble une idée essentielle. Vous avez rappelé la formule de Poincaré, je crois qu'elle est essentielle, à savoir que, en particulier aujourd'hui, mais déjà à l'époque, la lutte contre toute forme d'intolérance, de fanatisme, etc., est quelque chose qui est consubstantiel à ma personnalité elle-même. Pour avoir même souffert dans ma jeunesse de beaucoup de discrimination, j'étais roux. Ça a l'air idiot pour des tas de gens, mais savoir d'être différent, j'ai compris ce que c'était la différence, et d'être quelque part un bouc émissaire. Donc j'avais ça chevillé au corps. Et donc pour moi, ça me semblait évident. Alors, quand il y a eu des élections, effectivement, pour le Cercle du Libre Examen, il se fait qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, il y avait toujours deux listes qui s'opposaient, une liste de gauche et une liste de droite. Et à gauche, comme toujours, et en particulier après mai 68, c'est évidemment la bagarre entre tous les groupuscules. Il y avait les trotskistes, il y avait les maoïstes, il y avait tout. Et moi, j'étais rien du tout. Moi, j'étais de gauche, j'étais un anarchiste, que je suis toujours d'ailleurs. Et quelque part, j'ai représenté une sorte de forme de consensus entre tous les groupuscules pour être la personnalité qui pouvait faire consensus.
L'anarchisme fédérait à l'époque.
Et d'une certaine manière. Et donc, je me suis présenté et j'ai été élu. Et voilà. Et donc, dans mon équipe, on avait des gens de gauche, mais de toutes les tendances. Et c'est ce qui m'a amené, quelque part, à exercer cette fonction pendant un an.
Alors, quels ont été, justement, les principaux chantiers sur lesquels vous avez œuvré à cette époque?
Eh bien, comme le dit d'ailleurs, je reviens toujours à cette formule, il faut s'opposer au dogme et à ce qui est considéré comme étant fait pour toujours. Et une des choses qui nous semblait importante, c'est de corriger un certain nombre d'erreurs historiques. Et notamment, il y en avait une. Je rappelle que nous étions en 1970, 10 ans après l'indépendance du Congo. Et la personnalité essentielle pour cette indépendance, le premier ministre élu démocratiquement, Patrice Lumumba, avait été présenté comme un salopard, un communiste, un homme abreuvé de sang, etc.
Il se fait que j'avais un homme à abattre.
Un homme à abattre, et qui a d'ailleurs été abattu avec la complicité, rappelons-le quand même, des autorités belges et quelque part la complicité passive du roi Baudouin qui a été prouvée lors de la commission d'enquête concernant la mort de Patrice Lumumba qui a eu lieu bien, bien bien des années plus tard. Et donc, moi, qui l'avais connu personnellement très brièvement, parce que quand il était venu à Bruxelles, dans le cadre de la, ce qu'on appelait la table ronde, qui a préparé l'indépendance, il se fait que j'avais été un membre d'un service d'ordre pour le protéger, parce que déjà à l'époque, dans les meetings qu'il avait organisés, certains vieux coloniaux voulaient lui faire la peau. Et donc, comme ça, je l'ai un peu approché, et j'avais constaté que c'était un homme non seulement très intelligent, mais absolument pacifiste.
Bref, pas l'image qu'on décide.
Pas du tout l'image. Et donc, on a fait une semaine, Patrice Lumumba, on a réussi...
Au Librex,
on a invité deux de ses anciens ministres, Cléophas Kati-Mutatu et Anicet Kachamoura, mais qui étaient interdits de séjour en Belgique parce qu'eux aussi considérés comme des terroristes. On a dû les faire venir clandestinement en Belgique en passant la frontière. Ça a été toute une expérience.
Les autorités de l'ULB, quelles ont été leurs réactions alors?
Ils ont été corrects. Ils nous ont laissé faire, ils nous ont couverts. Il n'y a pas eu de problème. Déjà à l'époque, c'est important de le dire, l'ULB a toujours été, enfin rappelons ce qui s'est passé pendant la guerre 40-45, l'ULB a été toujours et reste, je l'espère, j'y suis plus, mais je pense...
On verra ça avec l'actuel président tout à l'heure.
Elle reste quand même un endroit où la liberté d'expression, même si on ne partage pas l'avis des autres, est respectée et doit être respectée. Et donc on leur a donné la parole. On a donné la parole à ces gens-là et on a pu, d'une certaine manière, pour tous les étudiants assez nombreux qui sont venus écouter, donner un autre son de cloche concernant la personnalité de Patrice Lumumba, dont aujourd'hui, évidemment, on reconnaît qu'elle n'était pas celle qu'on a voulu présenter à l'époque.
Bref, c'était une activité d'ordre subversif, vous décriveriez ça comme ça? Le rôle du Librex à l'époque, c'était d'agiter un petit peu de subversion?
Je ne dirais pas subversif, mais c'était de rétablir une forme de vérité qui avait été tronquée ou déformée. Autre sujet que nous avons abordé, qui me semblait important, c'était le sort des Juifs d'Union soviétique, qui étaient ce qu'on appelait les refusniks, qui étaient malheureusement poursuivis, mis dans des asiles psychiatriques, etc. Et nous avons fait toute une semaine aussi pour les défendre dans le cadre de la défense des droits de l'homme. Je voudrais quand même vous dire, il y a une anecdote par rapport à ça, parce que leur leader, c'était Nathan Sharansky. Et c'était l'homme qui était menacé, qui était en prison, et on s'est battu pour lui. Par la suite, il a été finalement libéré. Il est allé en Israël et aujourd'hui, il est un des meneurs du courant d'extrême droite pour la colonisation, contre le droit des Palestiniens à avoir leur État, etc. Donc, d'une certaine manière...
Vous regrettez ?
Non, pas du tout. Je ne regretterai jamais d'avoir fait ce qu'on a fait pour l'ensemble de ces Juifs pour qu'ils puissent avoir le droit de quitter leur pays. Mais ce qui est un peu décevant quand même, c'est de voir que leur leader, aujourd'hui, est un de ceux qui s'opposent le plus au droit des Palestiniens eux-mêmes d'avoir une terre alors que lui en a une.
Merci José Dubié. Christine Rigart, vous étiez vous la présidente du Librex en 82-83, soit une bonne dizaine d'années après José Dubié.
Oui.
Quels ont été justement les principaux sujets d'activité du Librex à votre époque?
C'était une époque qui était peut-être moins porteuse que le début des années 70. Avec le recul, je me rends compte que c'était une époque de changement, mais au moment même, on ne l'a pas peut-être complètement perçu.
Quel type de changement ?
Le changement d'une problématique est-ouest vers une problématique nord-sud. Mmh. Et donc, à l'époque, on a été entre les deux pôles, je dirais. Le cercle venait d'être agité par une très grosse discussion qui avait duré 2 ans sur le fait de savoir si oui ou non il convenait de condamner l'intervention soviétique en Afghanistan.
C'était de nouveau les deux courants que décrivait José Dubié tout
voilà.
À l'heure qui s'opposaient.
Sauf qu'à l'époque, la question qui se posait était, et quand il y a eu deux listes, elle était entre la gauche et la gauche. Il faut bien le dire.
Mais l'histoire se répète.
Voilà. Mais il y avait la gauche qui disait qu'il ne fallait pas désespérer la gauche et surtout pas faire le jeu de la droite et donc laisser gentiment l'Union soviétique faire ce qu'elle avait envie de faire. Et puis il y avait une autre gauche qui disait non, au contraire, si nous voulons rester vertueux, nous devons condamner les choses que nous trouvons mauvaises, en ce compris dans notre propre camp.
Et la seule attitude libre exaministe, c'était celle-là.
Il se fait que j'étais de ce camp-là, qui était à l'époque mené par un certain Marc Heutendal, mais c'est pas ce camp-là qui a été élu, paradoxalement. Mais j'y suis revenue 2 ans après, donc finalement...
Justement, parce qu'en faisant une petite rapide recherche, j'ai réalisé que sur les 71 présidents qui a connu le cercle des libres examens depuis 1928, voilà, il n'y a eu que 6 femmes,
oui.
Et la plupart ont d'ailleurs été élues après vous. Alors à l'époque, être une femme présidente, c'était une avancée symbolique ou c'était plutôt anecdotique quand même à l'époque?
Moi, j'ai trouvé ça très important. et c'est peut-être pour ça que j'y suis allée. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de femmes au comité. Mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas... Oui, généralement, tout le monde se mettait derrière les garçons. c'était pas la seule structure ou qui était majoritairement masculine, il faut bien dire. Hein. Donc, c'est pas pour rien non plus que c'est Philippe Grelet qui était un ancien président qui m'a très vivement encouragée à me présenter à la présidence. Et je pense que oui, c'était quand même une avancée importante que.
Et en tant que présidente, vous jouissiez du crédit qui était accordé aux hommes, aux garçons qui vous avaient précédé, ou est-ce que vous avez peut-être dû un peu plus vous battre pour
je être pense que crédible. De toute façon, c'est une époque où quand on s'investissait dans quelque chose de culturel ou de politique, si on était une femme, il fallait quand même montrer que on y connaissait quelque chose, alors qu'on ne demandait pas ça aux garçons. Donc, c'est la fameuse définition, hein, que l'égalité sera là quand, à degré d'incompétence égale, il y aura autant d'hommes que de femmes. Donc, voilà, ici, il fallait quand même montrer sa compétence, hein, surtout quand on était blonde.
En plus.
Donc, je vais quand même des petites lunettes à la Lennon. Donc, on voyait tout de suite que j'étais une intello, donc ça passait quand même. Hein. Donc, je ne peux pas dire que j'ai énormément de difficultés à ce sujet. Mais j'ai quand même senti, oui, ce petit truc-là en plus. Et là, bon, comme d'habitude, les commentaires habituels. Hein, je veux dire, quand un homme est attaqué, il peut répondre de façon virulente. Une femme doit répondre de manière beaucoup plus posée, sinon on la traite très, très vite d'hystérique. Mais ça, j'ai vite compris.
D'accord. Hamza Beylagbir, quand vous entendez ces témoignages des activités du Librex il y a 30 ou 40 ans, est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'être dans la même filiation ou est-ce que l'époque a fondamentalement changé selon vous ?
Je dirais plutôt qu'elle a fondamentalement et radicalement changé.
De quel point de vue ?
De l'engagement qu'avaient les étudiants vis-à-vis des buts et des principes auxquels ils croient. Je m'explique. Dans les années 70, dans les années 80, il y a encore les débris des années 70, à savoir les 68 arnes ne s'étaient pas encore calmés. Il y avait encore cette arne de s'engager, qui est tout à leur honneur d'ailleurs.
Alors que vous regrettez.
Que je regrette, bien évidemment. D'où le thème, en tout cas le chantier principal de notre année, de mon année au Librex, c'est pouvoir réfléchir ensemble comment relancer l'engagement étudiant à l'ULB. J'ignore quel était le pourcentage des gens investis et surtout interpellé par tout ce qui se passe sur l'université en 71, en 82, mais le nombre aujourd'hui est scandaleusement décevant. Je ne sais pas pourquoi est-ce dû. Peut-être que, on va essayer d'expliquer ça d'un point de vue purement socio-économique, c'est qu'on est dans une crise et que les étudiants, lorsqu'ils rentrent à l'université, ils n'ont qu'une contrainte, c'est de sortir avec un diplôme. Étant donné que même avec un diplôme, c'est difficile de trouver un boulot après, mais universitaire, ils rentrent dans une logique où il faut en fait que j'excelle dans mon diplôme, comme ça je deviens relativement spécial par rapport aux autres.
Ils ont le sentiment de devoir s'investir réellement dans leurs études et ne pas trop dépenser d'énergie dans des activités annexes.
Exactement.
Parce que la priorité est la réussite. Vous dites peut-être que les étudiants ont changé, même sans pouvoir réellement le démontrer de façon scientifique, mais c'est un sentiment que vous avez. Est-ce que vous avez pour autant le sentiment que l'université a changé?
L'université, ça s'appelle ce qu'on appelle l'université. Est-ce que c'est sa communauté a changé? Oui. Oui, d'ailleurs, et c'est là où je peux faire une liaison par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir le libre examen, c'est que la transmission des valeurs libre exaministes a du mal à changer, alors qu'on est dans une université qui se veut progressiste. Je m'explique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'université, la disposition socioculturelle des nouveaux étudiants n'est plus celle des années 70, 80, 90.
C'est-à-dire ?
Il y a plus de gens qui viennent du croissant pauvre de Bruxelles qui tentent l'université. Les gens osent plus l'université, et tant mieux. Le système d'éducation n'est pas encore égalitaire comme il doit l'être, mais il l'est plus que ce fut le cas dans les années 70 et 80. Et quand je parle de dispositions socioculturelles, c'est qu'il y a des gens qui ont des prénoms comme le mien, et qui viennent d'un milieu ouvrier, et qui sont doublement handicapés, que cela soit par la classe sociale ou par la classe culturelle. Et c'est là où le ton agressif qu'avait le combat libre-exaministe anticlérical avant, pour moi n'a plus de sens. Parce que lorsqu'on s'attaque à un clergé, il est certes religieux, mais il est aussi politique. Et quand on dit politique, il est par essence au sommet de l'État, au sommet de...
C'est pour cette raison-là que vous avez voulu, vous, justement, vous engager au Librex, et notamment tenter l'aventure de la présidence, parce que vous avez l'impression qu'il y a un chantier essentiel à mener là-bas. Je le rappelle, je le disais en introduction, mais vous êtes le premier président de Librex dans toute l'histoire à ne pas être de nationalité belge. En l'occurrence, vous êtes marocain.
Mais figurez-vous que, premièrement, moi, quand je me suis investi au Librex, c'était juste parce que j'aimais bien... par hasard. Enfin, j'imagine qu'on... Tout le monde, c'est pas par hasard qu'on a débarqué au Librex. Moi, c'est parce que je venais du Maroc, j'avais une éducation.
Ça vous disait quelque chose, le libre examen, en arrivant ?
Pas du tout. J'ai dû le googler pour voir ce que c'est, pour être honnête avec vous. Mais vraiment, parce que moi, j'ai eu 12 ans d'éducation islamique au Maroc. Je peux vous dire que je viens pas d'une famille conservatrice du tout, mais ça relevait du normal. C'est normal au Maroc d'être religieux, de ne pas remettre en question tout ce qui...
Alors qu'est-ce qui...
Et même oser remettre en question, c'est problématique. Et les anathèmes sont vite balancés pour discréditer l'interlocuteur. C'est un truc que je vis maintenant encore au Maroc, quand je reviens, bien évidemment. Mais c'est là où...
Donc en googlant libre examen, en découvrant la définition, notamment celle qu'on a citée d'Henri Poincaré, ça vous a fait quel effet ?
Je me suis dit déjà, je me retrouve personnellement dans... Enfin, je dis, ah, mais Poincaré, il a réussi à mettre des mots sur des ressentis que j'avais, des petits réflexes que j'avais peut-être dès l'âge de 15-16 ans, mais qui ont été relativement timides ou parce que l'environnement n'était pas...
Propice
à les développer. Mais en y débarquant, j'ai découvert des gens de sensibilités différentes. Malheureusement, moins politisé qu'avant, parce que la politisation, c'est plus à la mode aujourd'hui.
Si j'entends bien, c'est un des chantiers que vous proposez de mettre sur la table, c'est de repolitiser un petit peu la communauté
étudiante. Et juste relancer cette arme d'engagement et cette sensibilité par rapport aux causes. Et ça, c'est là où je dis que ma tâche, en tout cas la tâche des présidents, des années 2000 est relativement plus difficile, voire même après 2005-2006, est plus difficile que celle de ceux d'avant, dans le sens où les combats pour lesquels on peut s'investir sont moins manichéens que ce fut le cas avant.
Je vous propose de faire une petite pause musicale à présent avec un artiste qui, à mon avis, a dû inspirer plusieurs générations de libres penseurs. On se retrouve juste après.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur. Quelle est belle la liberté, avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps. On vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu son paysage. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Voilà, et puisque nous sommes sur le service public, précisons à toutes fins utiles que nous venons d'entendre « Heureux qui communise » de Georges Brassens, un morceau sorti en 1970, à l'époque où Josy Dubié était justement président du Cercle du Livre Examen. Josy Dubié, juste avant d'entendre ce morceau, Hamza Belakbir, l'actuel président du Cercle du Librex, parlait du degré d'engagement de la communauté étudiante aujourd'hui, avec ce sentiment qu'elle est moins engagée qu'auparavant. Est-ce votre sentiment ?
Je pense que c'est vrai. Avec mesure. Mais il y a quand même, je voudrais rappeler une chose qui s'est passée, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, qui est l'événement de ma présidence. C'est ce qu'on a appelé à l'époque l'affaire du cercle des nations. En fait, ce qui se passait, c'est que juste en face de l'ULB, il y avait un bâtiment qui était un bâtiment dans lequel se réunissaient des gens très orientés à droite à l'époque. Et ils ont organisé une cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de la prise du pouvoir par les colonels grecs en Grèce. J'ai appris ça, évidemment c'était pour nous une véritable provocation, c'était juste en face de l'ULB, et j'ai appelé une manifestation de protestation. Et on s'est retrouvés le soir même, 150 personnes, mais très déterminées. Quand je suis descendu dans le hall de la faculté, ça sentait l'essence, il y avait des gens qui étaient en train de préparer des cocktails Molotov. Et on a traversé l'avenue des Nations pour aller manifester. Et les trois ou quatre malheureux policiers qui étaient là se sont fait canarder par des bouteilles vides, par des cocktails. Ils se sont foutus le camp. Et il y a eu une véritable émeute. À l'intérieur, c'était la panique. Et on a appelé la gendarmerie qui est arrivée, la Légion mobile, etc. Et le campus, pendant plusieurs jours, s'est transformé en véritable champ de bataille. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déferlement de toute la communauté universitaire, de gauche comme de droite, tous ceux qui étaient attachés aux principes démocratiques, contre ce fascisme grec qui avait pris le pouvoir en Grèce. Et ça a duré plusieurs jours. J'ai été discuter avec le ministre de l'Intérieur pour obtenir la libération de nos camarades. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on a fait un appel à l'ensemble des communautés universitaires de Belgique qui se sont réunies. On a fait une très grande manifestation nationale pour protester contre le fascisme en Grèce. Et donc, je ne dis pas qu'au bout du compte, nous avons obtenu la fin de ce régime. Mais ça a en tout cas fait que les gens en Grèce, et ça je l'ai su plus tard, parce que comme journaliste, j'étais là au moment du renversement des colonels grecs. Je faisais reportage justement, que les gens savaient que quelque part en Europe, des gens se battaient pour lutter contre ce qu'ils subissaient eux-mêmes.
C'était un des rôles que vous assigniez à la communauté étudiante?
Absolument, absolument. Mais comme je vous le dis, il y avait toute la communauté était soudée, les professeurs, les étudiants, tout le monde, contre effectivement cette provocation inacceptable. Je voudrais ajouter un truc parce que j'ai entendu ce que tu as dit, Hamza. C'est très courageux ce qu'il fait. Il faut quand même rappeler une chose essentielle, c'est qu'en islam, l'apostasie est puni de mort. Et donc, tous ceux qui, quelque part, prennent leur distance officiellement avec la religion peuvent être, en fonction de l'islam, punis de mort. C'est très important, c'est quelque part courageux. Pour un laïc comme moi, et même un athée, moi je suis un athée, bon, il n'y a pas de problème. Encore qu'il y en a eu oui. Il y a quelques siècles. Hein. Rappelons quand même le chevalier de la Barre, je crois, qui a été exécuté pour avoir soi-disant craché sur la figure du Christ, ce qui n'a jamais été prouvé. Il a été, je pense, écartelé, en fait. Etc. Donc c'est des choses qui se sont passées, qui n'existent plus chez nous, mais en islam, quitter sa religion, c'est dangereux, on risque sa vie.
Hamza Belakbir, vous avez le sentiment de prendre des risques en étant aujourd'hui le président du Cercle du Libre Examen. Est-ce que c'est un risque consenti ou un risque inconscient?
Je dirais plutôt inconscient, dans le sens où la société de laquelle je viens au Maroc, c'est relativement plus light et allégé que dans les deux
sociétés. C'est plus les années de plomb d'Hassan II, c'est ça que vous nous dites?
Non, même les années de plomb d'Hassan II, c'était pas pour des raisons religieuses, c'était plus politique.
Des raisons politiques.
C'était des raisons politiques, mais disons que pour les crimes d'apostasie, je pense que ce n'est plus d'actualité au Maroc.
Mais pour le tourner autrement, être aujourd'hui marocain et président du Cercle du Libre Examen de l'Université Libre de Bruxelles, est-ce que ça a un sens symbolique particulier pour vous?
Pour moi, oui. Et bien évidemment, parce que comme j'ai dit lors de mon discours à l'Hôtel de Ville à l'occasion de la Saint-Véragne, il faut réfléchir, il faut commencer à comprendre que la disposition des Blancs Bleu belge, je pense, qui vont à l'UNIF et dont les valeurs libres exaministes relèvent de l'acquis, et même c'est souvent des héritiers, c'est plus d'actualité. Et c'est là où, pour moi, le travail libre exaministe et par conséquent laïque doit se remettre en question. Et que les méthodes mises en place pour faire de ces valeurs les siennes doivent complètement changer parce qu'on n'est plus dans le même schéma social qu'avant. Et pour des gens de culture musulmane ou de foi musulmane, c'est relativement problématique de venir et de leur montrer par A plus B, que ce soit par des lois d'interdiction ou que ce soit dans l'école, etc., de leur dire non, ça ne se passe pas comme ça, vous avez vos croyances et tout qui fait partie de leur identité. Et dans le climat dit de racisme ambiant, ils ont tendance à prendre ça comme une attaque, alors que c'est des valeurs que tout le monde doit partager, auxquelles on croit tous.
Et ce serait là justement un des chantiers qui devrait être pris en compte par la communauté étudiante et notamment par le stage du libre examen, selon vous?
Exactement. C'est une de nos responsabilités de vulgariser sans perdre l'ADN des valeurs qu'on est censé transmettre.
S'adapter peut-être au tissu sociétal du moment.
Exactement.
Je vous remercie. Dernière question pour vous, Christine Rigart. On avance très vite. Il nous reste plus ou moins 2 minutes pour cette émission. Je vais vous citer quelques noms et je pense que vous allez voir où je veux venir. Caïm Perelman, Arthur Rollo, Ilia Prigogine, Roger Lallemand, tous ont été présidents du Cercle du Libre Examen à leur époque. Ils ont fait, je le rappelle quand même pour ceux qui l'ignorent, des grandes carrières professionnelles ensuite. Est-ce qu'être président du Cercle du Libre Examen, c'est quelque part un choix de carrière, justement?
Ah, certainement pas. et je peux vous en citer d'autres qui...
Qui sont tombés dans l'oubli.
Qui sont tombés dans l'oubli, mais pas dans le mien. Non, c'est une fonction politique, mais c'est pas une fonction de représentation. Donc, je pense pas du tout que ça a été voulu comme un choix de carrière pour la plupart des présidents. Il se fait que peut-être que l'engagement qui les a menés à devenir président est aussi un engagement qui les a menés après ça à faire d'autres choses. Mais, par exemple, ça n'a pas été mon cas et je m'en porte pas. Je suis quand même très très heureuse de ce que j'ai fait quand j'étais au Librex et je reste toujours bienveillante à l'égard du cercle et que j'appuie chaque fois que je le peux d'une manière ou d'une autre. Ce que je voulais dire à Hamza, c'est que ce qu'il lui a vécu en tant que Marocain, d'une certaine manière, moi je l'ai vécu sortant des institutions catholiques. Je suis arrivée à l'ULB en étant persuadée que je ne voulais plus être dans une institution catholique et en ignorant complètement les mots libre examen. Et on les a expliqués le premier jour où je suis arrivée et je suis très heureuse d'avoir reçu à ce moment-là un petit livret expliquant pourquoi j'étais dans une université différente. Et pour moi, c'est extrêmement important et j'ai pas envie qu'on édulcore ça et qu'on fasse semblant que c'est une université comme les autres. C'est pas le cas. Et je pense que c'est très très important qu'on transmette ces valeurs de libre examen, qu'on explique ce que ces mots veulent dire et que les étudiants comprennent aussi que d'une certaine manière, quand ils choisissent de s'inscrire ici, ce n'est pas que pour une raison de proximité géographique, que ça doit être un choix philosophique, qui ne doit pas nécessairement être exclusif, qui ne doit pas être agressif, mais que ce n'est pas n'importe quel choix. Et que heureusement que certains combats... Alors évidemment, il y a des combats laïcs qui paraissent beaucoup moins importants. Moi, j'ai quand même connu l'époque où on mettait les médecins en prison parce qu'ils avaient procédé à des avortements. On mettait des médecins en prison parce qu'ils avaient procédé à des euthanasies. J'ai eu un professeur en 6e primaire qui, alors qu'on me préparait à ma communion solennelle, m'expliquait que les francs-maçons faisaient des messes noires. Donc, voilà. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était en 1972. Donc, je pense quand même qu'il y a des vigilances que nous devons avoir et que nous devons garder et qu'elles ne sont pas anodines.
Christine Rigart, je vous remercie pour cette conclusion de cette émission. Nous touchons effectivement à la fin. Je voudrais surtout vous remercier tous les trois, hein, Josie Dubié, Christine Rigart, Hamza Belakbir, d'avoir pris du temps pour évoquer avec nous vos souvenirs de présidence, du libre examen, mais aussi débattre et discuter des sujets d'actualité. Avant de conclure, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir Habib Kazdagli, doyen de la faculté de lettres de l'université de la Manouba à Tunis, ainsi que Nadia Kiari, caricaturiste tunisienne qui s'est révélée durant la révolution de Jasmin avec ses dessins d'un petit chat nommé Willis from Tunis. Ensemble, nous parlerons des dernières élections en Tunisie et des enjeux laïcs qui y sont liés. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.